tous les podcasts D3-8, radiogrenouille.com. Métamorphose. Bonjour et bienvenue sur Radio Grenouille pour le 7e numéro de Métamorphose. Aujourd'hui, c'est Sandra Blondel, Focus 21, qui sera ma coéquipière. À la chronique, Cécile Cohen. Sur le plateau, nous accueillons Aurore Huitorel-Vétro, enseignante à l'école Steiner d'Avignon, et Erwan Redon de l'espace éducatif Bric-à-Brac. Nous écouterons également une interview de Magali Volpes, interview réalisée par Sandra Blondel, qui nous parlera de la tribu des Parpayounes, une association qui regroupe des familles ayant fait le choix d'instruire leurs enfants à la maison. Quels enfants laisserons-nous à la planète ? C'est le titre du documentaire réalisé par Anne Barth et qui pose bien le propos de notre émission. Quels enfants laisserons-nous à la planète ou comment faire pour laisser à la planète de futurs adultes qui sauront construire leur existence sans le désir ou la tentation d'écraser celle des autres, qui privilégieront la coopération à la concurrence, qui sauront s'extraire du joug de la publicité, de la consommation démesurée, pour laisser émerger leurs propres désirs, puisés aux sources de l'essentiel, qui répondront à l'idéologie et à la propagande par un esprit critique en cheminement perpétuel. Comment faire donc pour permettre aux adultes de demain de préparer cette rencontre permanente avec soi-même, avec les autres et avec le monde, sachant que c'est de la qualité de cette rencontre, de ces interactions, que dépend la préservation de nos communs ? La bonne nouvelle, c'est que de nombreuses initiatives tentent de répondre à ces questions en réinventant les cadres et les processus d'apprentissage. Pour en parler, nous accueillons maintenant Aurore Huitorel-Vétro. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Dans l'école de Steiner d'Avignon, on trouve 285 enfants de 3 à 18 ans, 33 professeurs, 3 groupes de maternelle et 12 classes du primaire au secondaire, dont une première S et ES, et une classe de terminale en cours de création, nous y reviendrons, une cantine bio, 4 ateliers, bois, vannerie, cartonnage, travaux manuels, arts plastiques, 2 langues étrangères, anglais-allemand, 2 salles de rythmie et de musique, et un potager. Est-ce que dans la région, il y a beaucoup d'écoles alternatives qui offrent une scolarité de la maternelle au lycée ?
Alors dans la région du Vaucluse, où est notre école Steiner, nous avons une école Montessori également pour des plus jeunes et il y a une école alternative aussi qui est sur Barbantane, qui s'appelle L'Envolée, qui va ouvrir dans pas longtemps, c'est-à-dire en septembre 2016.
Mais du coup qui offre une scolarité vraiment de la maternelle au lycée, ce qui me paraissait plutôt rare.
Non, pas du tout. Donc ce sont pour des plus petits sur L'Envolée et sur l'école Montessori, ça s'arrête à peu près en cinquième si je ne me trompe pas, en équivalent en cinquième de collège.
Vous étiez enseignant de philosophie et maths dans un lycée classique et un jour, vous avez décidé de changer de cadre.
J'étais passionnée par les mathématiques et la philosophie et en France, on scinde véritablement en fait, les savoirs, les formes de savoir. Donc ne serait-ce que pendant mes études, le fait d'avoir deux universités séparées, une de maths et une de philo, c'était déjà très pesant. Et finalement, le système classique était aussi très scindé. Et au fur et à mesure, finalement, de recevoir des élèves de cette école Steiner qui venaient passer le bac dans le lycée classique dans lequel j'étais, j'ai compris que finalement, il y avait des écoles différentes qui existaient et qui permettaient justement de faire le pont entre les formes de savoir.
Et vous m'avez dit aussi que vous avez été frappée par la personnalité des...
Oui, tout à fait. En fait, il y avait véritablement une différence, alors pas forcément dans les personnes, mais en tout cas dans les attitudes que ces personnes avaient vis-à-vis des autres élèves. Donc on voyait véritablement plus des individus que des élèves qui regardaient le professeur finalement comme un être étrange et pas comme une personne à part entière.
Des individus, c'est-à-dire, vous voulez dire avec une personnalité forte, avec un regard critique. Qu'est-ce que vous appelez en fait, c'est quoi pour vous la différence entre un individu et un élève en fait?
Alors l'élève est déjà dans un rôle qui ne correspond pas forcément à la personne qu'il est intérieurement, alors que l'individu a déjà pu développer une forme d'esprit critique, un regard sur le monde qui lui est assez propre, tout en restant quand même dans le respect d'autrui. Et donc effectivement, oui, je recevais des personnes dans le sens où elles étaient moins cantonnées dans un rôle qu'on leur avait obligé à avoir, mais parce qu'on leur avait permis de développer leur propre potentialité et leur propre pensée.
Donc en fait, elle n'était pas formatée.
C'est un peu ça, oui.
J'ai glané une citation sur le site de l'école. La pédagogie Steiner-Waldorf s'adresse à l'enfant dans sa totalité. Plutôt que l'accumulation de savoirs abstraits et l'apprentissage par la seule voie intellectuelle, elle propose un enseignement qui favorise les intelligences multiples et le développement de facultés individuelles et collectives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Concrètement, ça veut dire qu'on fait vraiment un travail sur le cœur, la tête, les mains et le corps, en considérant que c'est ce qui va permettre à la personne d'être complète.
Moi, ce qui me fait réagir, qui me parle pas mal, c'est la question de l'apprentissage de savoir abstrait. Parce que c'est vrai que souvent on dit, bon d'accord, on apprend des maths, des formules, des calculs, mais finalement, pourquoi faire ? À quoi ça sert ? Et vous m'aviez cité un exemple que je trouvais très intéressant, où du coup, vous emmeniez les enfants en situation.
Oui, c'est ça. On considère qu'effectivement, si ça ne parle pas à l'élève et si le corps ne vit pas l'expérience et si l'élève ne vit pas l'expérience, il aura beaucoup de mal à finalement se trouver quelque chose de commun avec ce qu'il doit apprendre. Et là, il y a énormément de pratiques, c'est-à-dire qu'on est très basé sur les fêtes aussi, donc pour les plus petits. Et lors de ces fêtes, il y a énormément d'apprentissage. Donc ça peut être de la logistique, ça peut être des calculs. Et c'est des choses qui vont les intéresser parce que mettre une fête en œuvre, devoir découper pour faire des costumes, construire des décors, ça leur plaît. Et donc, par le biais de cette motivation, on passe par les mathématiques, on passe par de la logique, on passe par du français, on passe par des matières qui leur permettent de finaliser, on va dire, les projets qui leur tiennent à cœur.
La pédagogie privilégie la confiance, l'enthousiasme et l'épanouissement à la place de la crainte et la compétition. Vous, en tant qu'enseignante, comment est-ce que vous observez l'enthousiasme des enfants dans l'apprentissage ?
Ils sont très loquaces. Alors, c'est pas véritablement un manque de discipline, mais c'est véritablement le besoin de s'exprimer. Et on l'entend directement, ils nous le disent en face. Et comme on n'est pas un professeur qu'ils craignent, mais on est plutôt une personne dans laquelle ils ont confiance, ils nous disent directement « Ah, ce cours-là, il était vraiment chouette. Madame, là, j'ai pas trop aimé. » Voilà, il y a un vrai, vrai dialogue avec eux et on arrive du coup à nous situer nous aussi en tant que professeur et à adapter une façon d'enseigner qui correspond à leur façon d'apprendre.
Ok. Dans votre école, on trouve des projets pédagogiques assez incroyables. Séjour à la ferme, Jeux olympiques à Berne, voyage d'études des roches et paysages, stage agricole, stage forestier, séjour histoire de l'art à Florence, voyage en Inde auprès de la caste des intouchables, sans compter les activités hebdomadaires, fabrication de pain pour les tout-petits, tricot, couture, chant, peinture, théâtre. Alors pourquoi autant d'activités et finalement ils travaillent quand ces enfants ?
C'est souvent ce qu'on leur rappelle de faire. Quand même, surtout chez les plus grands. Donc il y a des années où il y a tellement de projets que quand on leur demande ce qu'ils ont fait dans l'année, ils oublient toujours de nous citer l'école, l'école habituelle on va dire, ou plus classique, c'est-à-dire les cours. Et c'est pas évident pour certaines années. Donc il y a des années où effectivement il y a plus la place pour le travail on va dire entre guillemets intellectuel. Mais ce qui nous rassure, c'est qu'à l'intérieur de ces projets, on arrive quand même à inclure tous les cours qu'on arrive à faire aussi, entre guillemets, intellectuellement et plus formellement. Donc, le même principe, c'est-à-dire que pour le voyage en Inde, il faut faire un calcul de budget, un budget prévisionnel. Donc, il y a à la fois des maths, de l'économie, de la communication. Donc, finalement, les matières qu'ils ont aussi académiques, on va dire, sont incluses dedans. Et donc, ça permet finalement d'aller plus vite. Et les cours académiques, en fait, n'ont pas besoin d'autant d'heures, j'aimerais dire, que dans le système classique, parce que finalement, ils vont très, très vite et ils vont comprendre plus profondément rapidement.
De l'école primaire au lycée, à quelques matières près, bien évidemment, je me souviens qu'il y avait des matières qui étaient enseignées de façon permanente. Et dans la pédagogie Steiner, j'ai l'impression que les matières évoluent de manière assez sensible d'un cycle à l'autre. Est-ce que je me trompe ?
Vous vous trompez pas du tout. C'est effectivement le cas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'humain. Donc, comment il évolue, à quel âge tel organe commence à se terminer, à quel âge les dents poussent, à quel âge elles tombent, etc. À quel âge les premiers amours arrivent aussi. C'est vraiment des paramètres extrêmement importants. Et donc, en fonction de la façon dont l'enfant grandit, l'adolescent grandit, on ne va pas lui apporter des réponses, mais on va lui offrir des outils qui vont lui permettre de construire des réponses.
Très bien. Alors, que deviennent les enfants qui sont passés par l'école Steiner ?
Alors ça c'est plutôt intéressant parce qu'on a un réseau d'anciens élèves, donc on les revoit assez régulièrement, ils reviennent aux portes ouvertes, ils font des conférences avec nous, ils viennent aussi pour apporter le réseau à nos nouveaux élèves en disant regarde, cette école c'est possible, ce métier-là aussi, viens faire un stage dans mon entreprise. Et en fait on a vraiment de tout. On a de l'artiste boulanger, on a du médecin, on a un prix Nobel de chimie aussi, c'était il n'y a pas très très longtemps. On a un ostéopathe, il y en a plusieurs. On a beaucoup d'internationales, parce que c'est aussi une école qui a des ponts avec toutes les autres écoles Steiner du monde finalement. On a Afrique du Sud, Canada, Australie. Donc nos élèves ont l'habitude d'aller voir des potes, entre guillemets, qui ne sont pas encore des potes, mais ils vont aller dans leurs écoles, ils font des échanges. Et puis au bout d'un moment, les frontières n'existent plus. Pour eux, c'est presque naturel. C'est d'autres êtres humains qui ont juste une autre langue, une autre culture. Il suffit de la découvrir, de la respecter, et puis d'échanger avec eux. Donc ils font des choix qui leur sont tellement propres qu'on a toutes sortes de choix.
Est-ce que vous avez constaté que les parents qui sont passés par une pédagogie alternative ont envie de la transmettre à leurs enfants ?
Oui, j'ai cette impression, effectivement. Je pense que c'est surtout un état d'esprit. Pas forcément un choix arbitraire, mais dans le sens où quand on a véritablement vécu cette liberté responsable et respectueuse, on a aussi envie forcément que ses enfants puissent profiter de ça.
La scolarité est payante dans l'école Steiner. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été possible, comme dans l'école Freinet par exemple, certaines écoles Freinet sont gratuites, pourquoi est-ce que ça n'a pas été possible pour l'école Steiner ? Est-ce que vous pouvez nous parler des tarifs et nous dire comment est-ce qu'on peut y accéder quand on n'a pas d'argent ?
Alors, l'école Steiner, en tout cas de Sorgue, n'est pas reconnue par l'État. Donc le problème, c'est qu'étant hors contrat, tout doit être payé, en tout cas les professeurs doivent être payés, les locaux, etc. Et ça, je vous avoue que c'est bien dommageable, parce qu'on aimerait bien recevoir absolument tous les enfants qui aimeraient pouvoir vivre ce genre de pédagogie. Après, il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre du ratio en fonction de ce que gagnent les parents. Donc c'est-à-dire qu'il y a des parents très fortunés qui payent beaucoup plus, justement pour permettre à des enfants et des parents qui ont moins les moyens de pouvoir profiter de cette pédagogie, d'y venir. Mais il y a autre chose aussi, c'est-à-dire qu'on fait exprès d'avoir des salaires très bas au niveau des professeurs, pour pouvoir créer des enveloppes qui permettraient à des enfants qui n'ont pas du tout la possibilité, et des parents qui n'ont pas du tout les moyens, d'offrir et donc de parrainer des élèves qui pourraient rentrer dans cette école. Parce qu'on est convaincu que croiser aussi des personnes, parce que je vais parler des élèves comme de personnes, de milieux sociaux, on va dire, très différents, c'est aussi une façon de permettre à cette société de devenir plus égalitaire, plus équitable.
Donc une sorte de fonds mutualiste que vous créez. Super, d'accord, très bien, merci. Pour terminer, vous créez actuellement une classe de terminale. Alors, c'est à votre initiative, Aurore. Hein ?
Oui.
Et comment est née cette initiative et qu'est-ce qui l'a rendue possible ?
Alors, elle était dans ma tête depuis plusieurs années déjà, lorsque j'étais dans l'éducation nationale, parce que je recevais les élèves de l'école Steiner qui venaient passer le bac dans le lycée dans lequel j'étais. Et donc, ils m'exprimaient souvent le regret de ne pas avoir la possibilité de continuer leur lycée dans leur école, puisque ces classes n'existaient pas. C'était juste un manque de moyens. Et donc l'année dernière, 4 élèves de l'actuelle, on va dire, seconde, sont arrivés 2 mois avant la fermeture de l'école en disant « Bon ben voilà, nous on veut pas partir, on a tout essayé. On a essayé le Luxembourg, la Suisse, Marseille, partout, on est allé voir toutes les écoles possibles, les lycées qui étaient à côté de chez nous. Et c'est hors de question, on veut construire la première et la terminale, aidez-nous. » Donc, c'était adorable parce que je rêvais qu'on puisse réussir à le faire. Et finalement, on a travaillé comme des dingues tous les 4 et moi-même, donc qui suis le porteur de projet. Et on a réussi. On a trouvé une salle, on a trouvé quelques fonds. Les parents nous ont suivis, les autres professeurs nous ont suivis. Et puisque ça a fonctionné jusque de septembre à janvier, à partir de janvier, l'école a validé en disant « C'est bon, vous avez réussi votre défi, on vous suit et on crée la terminale l'année prochaine et on officialise cette première qui vient d'être créée. »
Alors, il y a un appel de fonds qui est en cours, hein, quand
Tout
même.
À fait.
Et comment est-ce qu'on peut contribuer à cet appel de fonds ?
Alors, on a choisi une banque éthique, la NEF. Et la NEF, en fait, a créé une plateforme de financement participatif. Donc, il y en a des plus connues en France, mais là, elle est toute nouvelle. Et c'est un peu le fonctionnement, en fait, du... c'est du crowdfunding, pardon, c'est pas du tout le... Enfin bref. Et donc en fait, on va sur le site de la NEF, c'est une banque. Elle a créé une plateforme qui s'appelle Zeste, Z-E-S-T-E, puisque son credo c'est faites un zeste, faites juste un tout petit zeste. Et donc quand on tape Zeste, Avignon, École Steiner, on tombe tout de suite en fait sur la page de financement participatif. On est parti sur une base de 20 000 euros pour pouvoir trouver une nouvelle salle. Parce que là, nos premières ont une salle, pas de souci. Mais là, pour la terminale de l'année prochaine, il va falloir qu'on en trouve une.
Ce que je trouvais intéressant dans nos échanges, c'est que vous expliquez quand même que créer une classe de terminale, c'est une chose, mais que par ailleurs, vous avez créé des liens en fait pour l'après-terminale.
Oui, parce que le bac en soi, au final, on s'est rendu compte que ce n'était pas si important que ça. Le plus important, c'était vraiment le post-bac. S'ils ont leur bac et qu'il ne se passe rien derrière, ça n'a absolument aucune utilité. Et encore moins, en tout cas, dans la mentalité, on va dire, de notre école. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé un peu partout, au CIO, au SCUIO, et on est allé voir des prépas, des BTS, des IUT, des écoles, des universités. Et on s'est présenté tel qu'on était, de manière authentique. On a dit, bah voilà, on est une école comme ça, voilà nos bulletins, voilà comment ça se passe, voilà les projets. Est-ce que vous accepteriez nos dossiers si on vous les envoyait au moment des recrutements des classes post-bac? Et donc, on a eu les deux extrêmes. Soit, ah non, non, c'est trop bizarre, on n'ouvrira jamais vos dossiers. Ou alors, ah, c'est absolument merveilleux, c'est un renouveau de civilisation, tant mieux, etc., etc. Donc, on a fait le tri et oui, on a fait le pont avec celles qui comprenaient la façon dont notre école fonctionnait.
Merci Aurore. Si vous voulez plus d'informations sur l'école Steiner d'Avignon, je vous invite à vous rendre sur le site école-steiner-avignon.org. Et pour contribuer à la création de la classe de terminale, donc le lien que vient de vous citer Aurore, et puis vous pouvez aussi aller sur la page de l'émission Métamorphose sur le site de Radio Grenouille. On va écouter maintenant un morceau du groupe Alive de Roupette, Les Vacances, qui est tiré de la compile Les Petites Oreilles, produite par les Garçons Bouchers.
En slick et de candy ne vont pas mettre ses doigts dans son nez tout en puni. La maîtresse que t'as fait tes doigts sous les jupes des filles, y'a pas de poils à gratter, même pas quatre. Dessine pas sur les tables de multiplication, on est mieux que debout en rang deux par deux. L'école buissonne hier, ça compte pour du beurre de rentrer chez nous. Car ce soir, c'est les vacances.
Ouais!
Les vacances, les vacances,
les vacances,
les vacances,
les vacances,
les vacances,
les vacances,
les vacances,
les vacances,
les vacances,
les vacances,
les vacances, les vacances,
les vacances,
les vacances,
les vacances, les vacances, les vacances, les vacances, les vacances,
les vacances, les vacances, les vacances, les vacances, les vacances, les vacances, les vacances, hop là,
hop là.
La maîtresse dans le cahier brouillon de boule a pondu un 9 sur 10 en orthographe. J'ai un mot d'excuser mes fonds de culotte sur les bandits en regard dans la maîtresse. Espèce d'homme, et d'homme, c'est celui qui dit qui est.
Mais, maîtresse, c'est pas moi, c'est lui qui a commencé
déjà le refrain. Les vacances,
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 les vacances.
Vous êtes bien sur Radio Grenouille et vous écoutez l'émission Métamorphose. Nous allons écouter maintenant l'interview de Magali Volpes de l'association Les Parpaillounes.
L'idée de la tribu des Parpaillounes vient d'abord d'un rassemblement de 5 mamans. On s'était rencontrés dans une activité d'éveil sensoriel avec nos enfants qui à l'époque n'avaient que 2 ans, 2 ans et demi. Et on était toutes pro maternage proximal, écoute émotionnelle de l'enfant. Et quand on s'est dit, en septembre prochain, on va mettre nos enfants à l'école, il y avait un petit chat dans la gorge, on se disait, mince, ça ne nous semble pas être ce qu'on a envie de faire vivre à nos enfants. Et comme on était toutes les cinq d'accord, on s'est dit, bah, si on est cinq à le faire, du coup, nos enfants, ils ont déjà leurs copains, leurs copines, ça nous motive à le faire. Et donc on a commencé, sans être estampillés Association Loi 1901, à se rencontrer. Et au fur et à mesure, on a rencontré d'autres mamans, le groupe a commencé à grandir, et on s'est dit, et si on faisait une association ? D'abord parce qu'on avait envie, on avait le projet futur peut-être de faire une école pour nos enfants, une école parentale. Et puis parce qu'on avait envie d'amener nos enfants dans des musées, et qu'en étant association, on avait le prix, voilà, association. Donc on s'est dit, on va se regrouper autour d'une association, et c'est de là qu'est née la tribu des Parpayounes. Alors on a choisi ce nom d'abord parce qu'il est local, c'est du provençal, Parpayoun. Et puis à la fois, c'est le Parpayoun, ça montre qu'on volette, qu'on papillonne, donc ça montre la diversité de toutes les mamans, enfin, toutes les familles, hein, parce qu'on voit surtout les mamans, mais il y a les papas derrière bien sûr, et les enfants. Et à la fois le côté tribu, parce qu'on avait envie de vivre ensemble, de partager les mêmes valeurs de parentalité, à l'écoute voilà, des émotions de l'enfant. Et de son potentiel voilà, de vie. Toutes les mamans ont fait un choix différent. Hein. Moi, je peux parler du mien. Et effectivement, du premier noyau, on avait tout à peu près le même constat. C'était, on a accompagné notre enfant à l'écoute des émotions. Hein. On a toutes lu les bouquins de Filioza, de Faber et Maslisch, etc. Et on s'est dit, ils ont 3 ans, donc leur cortex n'est pas du tout formé. Ils ne peuvent pas gérer leurs émotions par eux-mêmes. Ils ont besoin d'un adulte à côté d'eux. Et l'école n'est pas formée pour ça. Et même quand on trouve des instituteurs qui sont très maternants de par nature ou qui sont intéressés par ce courant de parentalité, ils ont 30 enfants. Et donc avec 30 enfants, on ne peut absolument pas être derrière eux et les accompagner. Donc pour nous, ça a été ce premier choix de ne pas mettre l'enfant à la maternelle. Et puis on pensait le mettre au CP. Et puis cette année, il aurait dû aller au CP. Et puis finalement, bah, ça fait 3 ans qu'on fonctionne, qu'on est bien, que c'est harmonieux. On s'est dit finalement, on continue, parce que c'est notre choix de vie qui nous convient le mieux. Parce qu'on avait envie aussi de lui permettre d'épanouir toutes ses capacités au rythme qui est le sien. Et l'école, ben, elle propose un rythme pour tout le monde. Donc forcément, ben, soit ça marche bien, l'enfant il s'adapte, soit il s'adapte pas, et ça peut le bloquer. Donc finalement, on est resté à la maison.
Et donc, comment vous vous organisez dans la tribu des Parpayounes ?
Alors, on se voit tous les mardis. Alors, logiquement, toute la journée, mais on est toutes plus ou moins d'élèves tard, donc c'est pas avant 11h. On se donne rendez-vous pour pique-niquer et faire une activité l'après-midi. Alors, c'est souvent des activités informelles, hein, dans des parcs. L'objectif pour nous, c'est que les enfants s'amusent entre eux et que les mamans parlent entre elles. Et quelquefois, les papas, quand il y en a un qui vient. Et puis on fait aussi des visites. Mardi dernier, on était au Jardin botanique de Marseille. On a découvert voilà, les plantes du jardin, japonais et chinois. Et la semaine prochaine, on fait une activité planétarium. Et ensuite, le jeudi, on se donne tout rendez-vous, pour celles qui veulent, à la ludothèque de Rousset, qui est un endroit voilà, rempli de jeux aussi bien intérieurs qu'extérieurs, où les enfants peuvent s'en donner à cœur joie. Et qui est uniquement ouvert pour les non-sco, comme on dit, tous les jeudis après-midi.
Et comment se passe la relation en fait avec l'institution, l'éducation nationale ?
Alors là, c'est à la responsabilité de chaque parent. Hein, l'association n'a aucun droit de regard là-dessus, puisque nous, on ne doit faire que du partage ludique. Mais par contre, chaque parent a l'obligation, lorsque son enfant a 6 ans, donc l'instruction devient obligatoire, d'envoyer une lettre à l'inspection d'académie et à la mairie en disant « je ne mettrai pas mon enfant à l'école ». Et alors, on doit recevoir du coup une visite de la mairie et une visite de l'inspection d'académie pour vérifier que l'enfant est instruit et vit dans un environnement convenable pour son développement.
Et comment ça se passe ? Donc là, il me semble que vous avez un rendez-vous important bientôt.
Oui. Ah oui, pour mon fils Ethan, ça sera le 26 mai, donc j'ai pas encore passé cette première fois. On a dans la tribu, bien sûr, des mamans qui sont déjà passées. Hein. Et ça se passe, je dirais, assez bien quand même. Là, dans la tribu, on n'a pas vraiment de déconvenues trop fortes. Nous, ce qui est le plus délicat, c'est en général de faire respecter notre envie qu'il n'y ait pas de test quand les parents ne veulent pas de test. Parce qu'on doit vérifier l'instruction de l'enfant, mais non pas son niveau. On ne doit pas le comparer avec le niveau d'un enfant du même âge dans l'éducation nationale. Et surtout pas sortir des évaluations type CP toutes faites. Les exercices qu'on peut éventuellement proposer à l'enfant doivent être individualisés et à partir des supports que le parent utilise avec lui. Et c'est pas toujours le cas, donc c'est vrai qu'il y a certaines familles qui ont un petit peu du mal avec ça. Mais globalement, là, cette année, on a eu plutôt des relations respectueuses et à l'écoute, donc on est contente. J'espère que ce sera pareil pour moi et Ethan.
Quelle pourrait être votre réponse en fait face à certains a priori que pourraient avoir d'autres parents sur ce type de démarche? Par exemple, le fait de dire à l'école, à la maison, rend un enfant moins social ou le prépare moins à la dureté de la société.
Effectivement, c'est deux critiques qu'on nous donne. En général, je réponds qu'au niveau de la sociabilité, en fait, il y a juste à observer. Quand on observe globalement nos enfants, ils sont naturellement sociables, ils vont vers les gens, ils n'ont beaucoup moins d'a priori en fait. Ils ont plus l'habitude d'être confrontés à un monde mixte, formé d'adultes, d'enfants de tous âges. Et on prend le temps de vivre en général. Donc par exemple, on ne va pas à la boulangerie en 5 secondes avant d'aller à l'école parce qu'à midi il faudra rentrer. Non, nous on prend le temps de faire les choses en général. Donc l'enfant naturellement pose des questions. Et en plus on va à des heures où il y a moins de monde, donc par exemple voilà, le boulanger il va répondre à la question du « mais tiens, mais pourquoi ce pain-là, il a telle forme, etc. » Donc en fait la curiosité de l'enfant est restée vive, parce que je pense que malheureusement l'éducation nationale peut casser la curiosité de l'enfant, et là en l'occurrence elle reste vive, et on est tout le temps dans le monde. On est tout le temps en train de parler à des adultes, à des enfants, et globalement ils sont sociables. Il faut juste être observé, en fait, les enfants scolarisés à la maison, en général, ils sont très sociables. Par rapport au fait de ne pas être confronté dans le monde, effectivement, je peux comprendre, on est quand même un peu à l'écart de ce qui est le plus confrontant pour un enfant à son âge. Les conflits qu'il va rencontrer, c'est à l'école. Alors d'abord, il existe des conflits dans la tribu. À chaque fois qu'on se rencontre, il y a des conflits entre enfants. La différence, c'est que il y a un parent accompagnant. Et comme on partage les mêmes valeurs, on a tout à peu près la même manière d'agir sur un conflit. On a les mêmes sources d'inspiration. Donc l'enfant, on lui apprend à régler son conflit tout seul au fil des années. Et maintenant, on peut voir qu'il y a des enfants qui se placent en médiateur déjà, quand ils sont plus grands. Ou ils viennent nous rapporter le conflit d'une manière beaucoup plus mature déjà, qui n'est pas que sur le jugement. Ils vont être à l'écoute de leurs émotions, ils vont parler d'abord d'eux-mêmes et pas de l'autre. Donc je trouve que ça leur donne au contraire des outils pour vivre les difficultés de la vie. Maintenant, c'est l'avenir qui dit, et puis je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, c'est aussi en fonction de l'enfant et du parent et de la famille. C'est pour ça qu'il n'y a aucun choix idéal. Nous, on n'a pas du tout on n'a pas l'impression d'avoir choisi le choix idéal. Loin de là, on s'est beaucoup posé la question, et toutes les mamans sont dans ce cas. On a pris un petit peu tous les choix qui s'offraient à nous. Bon, voilà, l'école traditionnelle, l'école en bas de chez nous, école Montessori, école Steiner, école Freinet, ou instruction en famille. Et dans tout ça, ce qui nous apparaissait le mieux pour notre famille, c'était l'instruction à la maison. Mais pour d'autres familles, c'est sûr que la réponse sera différente. Métamorphose.
Donc, Erwan Redon, bonjour. Grand merci de participer à cette émission. Vous, l'éducation nationale est un univers que vous connaissez bien puisque vous avez été professeur et vous vous lancez dans un projet un peu fou. Les espaces éducatifs bric-à-brac qui comprennent une micro-école et un accueil de loisirs sans hébergement. Ce projet qui devait se situer à l'origine à la Belle de Mai a finalement pris corps dans les quartiers nord. Et c'est un projet que vous avez créé donc il y a un an avec Marie-Claude Labourin et un groupe de parents. Est-ce que, tout d'abord, est-ce que ce que vous venez d'entendre vous inspire ?
Oui, parce que c'est effectivement ce à quoi on est confronté. Soit on reprend ces initiatives, que ce soit Steiner, Montessori, Freinet ou autres encore possibles, soit on quitte, effectivement, on a le processus de, des parpaillous, et chacun, en fait, y trouve en fait, son développement. Ce qui, moi, j'ai quitté, c'est, je me suis plutôt sauvé, je suis un militant du service public, et c'est un petit peu la mort dans l'âme que je suis parti, parce que je me battais justement pour qu'on mette en place que le développement, je sais plus ce que tu... Je prends des notes, j'ai pas de mémoire. Cœur, tête, main, corps, vivre l'expérience, le savoir abstrait, tout ça, c'est des choses qu'on est là-dedans. Alors, après, Freinet parlait de tâtonnement expérimental, mais c'est la même chose. On est dans les mêmes définitions. Il peut y avoir une petite différence avec Montessori, puis on va voir en fonction des courants qui développent à l'intérieur des orthodoxies un peu plus fortes ou pas. Mais à l'intérieur du courant Freinet, on a une pédagogie institutionnelle qui donne un petit peu moins le cadre de tâtonnement, à mon avis, expérimental par la prégnance de ces institutions, alors qu'il y a d'autres tendances à l'intérieur du mouvement Freiné, comme l'école du troisième type, par exemple, qui était un mouvement beaucoup axé sur les anciennes écoles de campagne, les classes uniques, multi-âge, qui développaient une forme de développement en rhizome, où chacun Aurore disait tout à l'heure de l'individu et du collectif. Cette nourriture du projet individuel par le collectif et le collectif s'en nourrissant de la même manière, on est exactement dans les mêmes champs. Donc je pense que ça peut se faire en famille. On peut très bien imaginer que le regroupement entre les familles... Il y a une chose par contre qui moi m'empêcherait, m'a pas amené à développer ce genre de choses, parce que j'aurais pu me lancer là-dedans, c'est le manque de la présence collective au quotidien, de construire un lieu collectif, un espace collectif où les individus peuvent vivre et se vivre en collectif. Ça, il n'y a pas dans les familles. Elles se retrouvent au parc, elles se retrouvent dans différents endroits, mais elles ont leur sphère privée. Et là, c'est de casser la logique de sphère privée en disant on se retrouve tous et on va construire un lieu où on va pouvoir individuellement s'épanouir. Et Steiner, moi, je ne voulais pas vers du Steiner. Mais ce qui m'intéresse...
Pourquoi ?
Parce que j'étais construit dans des idées autres et peut-être que je me trompe. En plus, peut-être que je mets une image peut-être de spiritualité ou de choses comme ça, qui n'a pas été tellement évoquée, mais qui colle un peu à la peau de Steiner là-dessus. L'autre chose, c'est que je ne voulais pas... Alors, très souvent, on me demande, mais c'est quoi alors ? Alors, je dis pour raccourcir, on est proche de Freinet. Mais dans la plaquette, si je pouvais... On a une problématique quasiment de vente. Il faut qu'on vende comme ça une idée, quelque chose. Et ça m'ennuie, en fait. Il y avait un collège qui s'est monté dans les Ardennes belges, qui s'appelait Ali Merlé, qui avait développé le concept de pédagogie nomade. Mmh. En reprenant aussi l'idée du maître ignorant de Rancière, enfin qui reprenait et ça reprenait cette chose-là de dire on va aller piocher on va faire un nomadisme de intellectuel aussi et de pratique. Et moi, il y a des moments, je fais de la pédagogie très classique et il y a une construction philosophique de l'ordre du proche de celle aussi de Steiner dans la pratique, dans le tâtonnement expérimental de Freinet, on les retrouve avec un projet qui est de dire, par contre, ça je le retrouve pas dans les... Je le retrouverai plutôt chez les parpaillounes, ça, c'est-à-dire de dire je casse le scolaire et le périscolaire. Mmh. Je veux plus entendre parler de scolaire ni de périscolaire, d'où un espace éducatif en continu. Alors, nous on n'y est pas encore. Parce que
pourtant le projet
c'est
à la base.
C'est le projet de base, mais c'est d'annoncer, on est ouvert de 8h à 18h, 5 jours sur 5, etc. Bon, ça fait 50 heures de travail, j'y arrive à mes 50 heures, mais pas en présence enfant. Mais ça viendra peut-être. L'idée est d'arriver à... d'arrêter de segmenter. On a quand même une politique de segmentation des temps éducatifs avec un ministère de l'éducation qui crée du scolaire, et un ministère santé sociale et sciences jeunesse et sport qui crée du social. Et nous, on voudrait refaire du social et mêler l'éducatif, le social, et dire, ben, même quand on est au centre aéré, on a le droit d'apprendre à lire et à écrire. Alors que très souvent, on nous dit, ah ben non, 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 ça c'est à l'école que ça se fait. Et à l'école, on nous dit, ben non, on n'a pas le temps de jouer, quoi.
Et du coup, comment ça s'est passé cette année à Bric-à-Brac? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez fonctionné? Combien il y a d'élèves, en fait? Et Comment ça se passe une semaine
Alors une semaine classique, elle n'est pas programmable, elle n'est pas programmatique. Ça, c'est un des éléments qui a mené le conflit que j'avais à l'intérieur de l'éducation nationale. C'est que je vais être dans une logique où on arrive le matin, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et donc à partir du moment où on peut organiser une réunion de temps en temps, en disant bon, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que ça, et ça lance des activités qui sont ce que disait Aurore sur celles dont ils ont envie. Et à partir de celles-là, il va se passer des choses. Il se passe toujours des choses. À partir du moment où on a amené un environnement un peu riche, où on laisse essayer, tâtonner, que la parole se libère, et c'est tout ce que... je vais pas répéter tout ce qu'a dit Aurore, c'était très bien que ça correspondait à ça. Et par exemple, un lundi matin, on arrive, nous, il y a une logique aussi où on essaye de vivre cette histoire de lieu collectif. Il doit amener aussi à une vie collective on a besoin d'un goûter le soir, et on va faire le pain le lundi matin, et le pain il va nous servir au goûter pour l'ensemble de la semaine. Mais ça reprend l'idée, on veut aller en sortie à l'autre bout du monde, et il faut qu'on trouve les moyens pour le faire. Bon, moi je suis pas avec des plus grands, donc on a entre 4 et 10 et 8 ans actuellement. Il y a que 10 enfants. Il y a que 10 parce que on n'avait qu'une toute petite pièce, on avait eu 25 mètres carrés comme espace, donc j'ai limité à 10 enfants. C'était un des points d'écueil sur lequel aussi ça me posait souci à l'intérieur de l'éducation nationale, c'est qu'on crée des situations qui empêchent tout ce qu'on a dit, Aurore et moi, là, sur le développement, tout ce que dit la maman aussi des Parpayoun, c'est-à-dire comment on permet notre pédagogie à se mettre en place. On ne peut pas le faire quand on a un espace réduit, quand on a un ratio, c'est pas tant l'espace réduit, mais quand on a un ratio nombre de personnes par rapport à une surface donnée. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus développer dans le mouvement. Mmh. Dans le fait que ça puisse circuler, que ça puisse échanger, que ça puisse se partager comme ça. Donc on est obligé de coincer les individus et de faire quelque chose d'un peu plus programmatique. Mais c'est une volonté politique d'organiser les choses comme ça, hein. C'est pas très, très clairement, quoi. Donc notre fonctionnement, il démarre dans ce sens-là, en disant il va se passer des choses. Et moi, j'ai aussi... mes bouts d'idées, c'est-à-dire d'un certain nombre d'apprentissages sur lesquels on ne veut pas laisser aller. On ne s'est pas placé sur le plan de Summer Hill, par exemple, qui était une autre forme, un autre schéma éducatif aussi, où ils étaient en capacité de dire quand l'enfant aura envie, il s'y mettra. C'est-à-dire qu'à 13 ans, 14 ans, il y avait encore des jeunes qui ne savaient pas lire, qui disaient « bon, allez, je m'y mêle ». Bon, je suis pas placé là-dessus sur cette... On peut, hein, pourquoi pas. Faudrait vraiment que tout le monde soit vraiment dans cette logique-là et qu'on soit assuré d'avoir une sorte de continuité. Donc là, on force un petit peu certaines choses aussi. Il y a un militant freinet qui parlait, Paul Le Boeck, qui parlait de forçage de liberté. Donc il y a un petit peu de ça de temps en temps aussi, une espèce de contradiction à dire « bon, viens goûter ». Viens goûter cette chose-là à laquelle tu veux pas aller voir, mais viens tester ça, parfois de manière un peu virulente, en disant non, c'est le moment. Et pourquoi? Parce que c'est le moment. Il y a aussi une position d'adulte aussi qui dit, et assumé, d'éducateur, qui assume aussi une position, qui fait autorité, qui dit viens tester ça, c'est pas contre toi, c'est juste que je veux que tu viennes voir cette chose-là. Et le fait que ce soit équilibré avec d'énormes temps de liberté où ils tâtonnent à leur rythme complètement, ça passe très très bien, et ça rejoint ce que proposait Freinet aussi avec dans le sens où il disait on peut pas donner un seul choix, c'est-à-dire tu dois faire que ça. Il dit je te donne 3 possibilités, pas plus, mais je te donne ces 3 possibilités là.
Et du coup, quelle est la place des parents dans l'école?
Alors ça, c'est une discussion qu'on a depuis le début, c'est que soit c'est des parents qui refusent d'avoir un éducateur à qui confier leurs enfants, parce qu'en fait c'est ça aussi qui est posé avec les Parpayoun, c'est est-ce que j'accepte de confier mon enfant à quelqu'un d'autre? C'est aussi quelque chose d'intéressant de pouvoir, moi ça me plaît d'aller confier mon enfant à quelqu'un d'autre aussi, pour qu'il apprenne et qu'il soit en relation éducative avec d'autres personnes. Et l'autre choix, enfin l'autre de fait qui arrive nous dans notre situation, c'est que là on est plutôt dans une situation où c'est les travailleurs eux-mêmes qui créent la structure. Pour l'avoir déjà testé, parce que j'ai déjà testé aussi une création d'école au Danemark avec Parental, avec des franco-danois, et je sais à peu près maintenant ce que je veux, et après avoir vécu mes conflits aussi à l'intérieur de l'éducation nationale, je sais aussi ce que je ne veux plus. Dans leur projet, ils ont un projet qui dit « vous pouvez entrer quand vous voulez ». Par contre, vous n'avez pas la main complète sur le développement. On est en train de développer une petite entreprise, mais au même sens que Steiner, il y a un problème économique qui se pose, il y a des orientations et des choix à faire, de locaux, de stratégie, etc. Vous n'aurez pas la main là-dessus pour séparer les deux entités. On tâtonne aussi, hein. on est en plein dans le même mode de que notre pédagogie, parce qu'on apprend un petit peu là-dessus. Et on est en réorganisation un petit peu là, actuellement, parce que je pense que j'ai pas été assez clair aussi au départ. Moi, j'ai tout le temps, tous les jours, il y a des adultes qui sont là, il y a des parents ou autres. C'est pas quelque chose d'ouvert aux parents a priori, et je demande pas aux parents de s'investir particulièrement. Enfin, je veux dire que c'est pas une obligation. Et ça, c'est un positionnement aussi par rapport au projet social que l'on a. C'est-à-dire qu'on ne demande pas... Alors, il n'est pas viable. On va revenir sur ce que disait Aurore. Clairement, on veut faire le choix d'un projet social où on ne demande que 30 euros par mois, sauf qu'on ne vit pas. Mmh. Moi, je ne me paye pas. Je pourrais me payer 20 heures l'année prochaine. Mais bon, voilà. C'est pas, économiquement, il ne tient pas.
Pourtant, vous avez le projet de continuer l'année prochaine. Alors,
On continue l'année prochaine parce que on réussit à dégager 20 heures de salaire pour l'année prochaine. On a encore des gens qui sont motivés, mais on a une visibilité à un an. Donc on ne sait pas plus. Notre problématique, elle est essentiellement économique maintenant. Elle n'est pas tellement sur le plan éducatif ou du savoir-faire. Les gens ont validé et les familles qui ont participé. Là, on plutôt validé ça. On sait qu'il y a de la demande. Donc, quand on était dans le 3e arrondissement, au mois de juin l'année dernière, on avait 20 inscrits. On a limité à 20 aussi le nombre d'enfants. On ne veut pas prendre plus que 20 enfants par classe. Enfin, dans une seule classe, classe unique. Faire du social, ça a un coût et personne ne paye ce coût-là.
Et donc, du coup, Erwan, quelles sont les solutions un peu envisagées pour résoudre cette problématique de modèle économique dont tu parlais ?
Mais on a fait une étude dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et ce qui ressortait en fait, c'est qu'on est un peu sur un modèle comme d'autres, hein, d'appel à mécénat, de recherche de fonds. Alors les fondations, ça nous fait pas du pérenne. Notre problématique, elle est de payer des salaires. Très clairement, hein, le salaire et un loyer. Le reste coûte vraiment pas cher en termes de... Donc on est là pour l'instant sur un appel aux dons, on a appel à un versement. On a créé une communauté, parce que comme disait Aurore, on est hors contrat aussi, nous aussi. À la fois par choix, et de toute façon, avant 5 ans, on ne pourra pas demander à y accéder, mais on se posera encore la question par rapport aux contraintes qui reviendraient aussi de la part de l'État. Donc on est sur ce modèle d'appel aux dons, et puis après, c'est pour compléter, c'est des fondations, des subventions, mais ça va en réduction très très forte de toute manière. Donc c'est mécénat et appel aux dons, une communauté de donateurs qui permettrait de rendre plus autonome. Et puis on relance les inscriptions, mais les inscriptions, pour l'année prochaine, on montera à 15. On calme un petit peu le rythme. Là, on est allé très très vite. Et donc on monte à 15 enfants pour l'année prochaine. Et si on continue, on va envelopper une journée de plus, parce qu'on a des questions de temps de travail aussi qui s'imposent.
Merci Erwan et longue vie.
Vous écoutez à Métamorphose avec les Roulouilles.
Et maintenant, la chronique de Cécile Cohen. Cette chronique est l'occasion pour moi de rendre hommage aux écoles dans lesquelles j'ai grandi. D'abord l'école nouvelle d'Antony, puis l'école aujourd'hui, School for Today, dont on a fêté cette année les 40 ans. En réalité, tout commence dès la fin du 19e siècle, alors que quelques individus, souvent médecins, se consacrent à la pédagogie et posent les bases du mouvement de l'éducation nouvelle. Il s'agit d'Ovide de Croly en Belgique, de Rudolf Steiner en Allemagne, de Maria Montessori en Italie ou encore de Célestin Freinet en France. Au fil du XXe siècle, ce mouvement a donné naissance à des écoles dans lesquelles on retrouve quelques fondamentaux. D'abord, on y considère l'enfance comme un état réel et authentique et non pas comme une simple voie d'accès à l'état adulte. On estime que l'enfant doit être heureux et que l'éducateur doit d'abord veiller à ce qu'il le soit. Ensuite, on s'appuie sur des méthodes dites « actives ». On y apprend en faisant et par tâtonnement expérimental. Enfin, suite à la Grande Guerre, le mouvement avait l'ambition d'éduquer de futurs citoyens à la démocratie. Et aujourd'hui encore, on tente d'y transmettre un monde commun tout en garantissant la formation à la liberté. À ce propos, laissez-moi évoquer les conseils de classe qui comptent parmi les institutions développées par Célestin Freinet. Quelle ne fut pas ma surprise au collège quand je découvris que le conseil de classe était un espace clos où les enseignants jugent les élèves, les classes par ordre de mérite et distribuent les bons points et les avertissements. Car pour moi, le conseil avait été jusque-là un temps où la classe, enfants et instits, se réunissaient une fois par semaine, pendant un temps donné, pour discuter de l'organisation de la vie collective, se répartir les tâches à accomplir, comme passer le balai dans la classe, passer l'éponge après le déjeuner, distribuer et ranger les pots de crayon, ou encore nourrir le lapin. Mais le conseil était aussi et surtout le lieu de la régulation des conflits. Après l'exposé de la situation par les enfants concernés, avec un grand sérieux, nous nous mettions tous au travail pour élaborer des solutions. L'instit participait au même titre que les enfants, et comme nous tous, levait la main pour prendre la parole. À la fin, les enfants s'engageaient à essayer la solution retenue, dont on évaluait la réussite la semaine suivante et qu'au besoin, on ajustait. Grâce au conseil, nous prenions conscience que par le dialogue, les conflits pouvaient être dénoués et que nous avions tous un rôle à jouer et une responsabilité dans le maintien du cadre et de l'harmonie au sein de cette petite communauté. Bien sûr, il faudrait aussi parler des classes de 18 à 20 enfants, de l'absence de notes et de devoirs à la maison, des instits qu'on appelait par leur prénom, de l'approche d'une langue étrangère dès la maternelle, de l'imprimerie, des arts plastiques, de l'expression corporelle, des classes vertes dans la Drôme et des classes de mer en Bretagne, du projet annuel auquel toutes les classes participaient, des outils pédagogiques du docteur Caleb Gattegno, des équipes pédagogiques investies collectivement dans le projet de l'école et dévouées à développer la conscience et la curiosité des enfants. Il faut surtout que je vous dise le plaisir d'aller à l'école tous les jours et la sensation de liberté qui nous habitait. Le temps nous manque, alors je finirai en disant que dans ces écoles, l'action de l'éducateur ne s'exerce pas sur l'enfant mais sur le milieu, l'enjeu étant de stimuler le désir d'apprendre de l'enfant grâce à la prise de conscience et à la satisfaction qu'il éprouve lorsqu'il découvre quelque chose qu'il ignorait. Merci Cécile. Métamorphose. Il est temps maintenant de vous parler de ceux qu'on n'a pas pu inviter sur le plateau.
Donc, le printemps de l'éducation est un mouvement qui met la question éducative au cœur de la transformation sociale en marche. Sa mission est de contribuer à faire émerger et se développer la diversité éducative centrée sur le bien-être global des enfants. Donc, plus d'informations sur printemps-education.org et avec une invitation à aller fouiller dans la rubrique agenda. Il y a aussi le Filiosa & Co, une organisation qui propose de découvrir la parentalité et l'approche en pratique de l'enfant à travers des ateliers parents. Et prochainement, un stage approche empathique de l'enfant à Aix-en-Provence, les 11, 12 et 13 mai, animé par Violaine Riefolo, et à Marseille le 4 juin, à Septem-les-Vallons le 11 juin, animé par Anne Tournelle. Et puis étant à Marseille, on ne pouvait pas parler de pédagogie alternative sans citer les Calandreta, qui sont des écoles bilingues français-occitan qui appliquent des méthodes d'apprentissage par l'immersion linguistique précoce. Elles appliquent des pédagogies actives inspirées de la méthode Freinet dont on vient de parler. Et il en existe à Montpellier, à Toulouse, et en 2014 a été créée une association de préfiguration de Calandreta à Marseille.
Je vous invite également à lire un livre que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais qui m'a l'air bien intéressant puisqu'il raconte l'histoire des écoles mutuelles qui ont existé en France au XIXe siècle et qui étaient basées sur l'entraide et l'apprentissage des élèves par d'autres élèves, appelés alors les moniteurs. Certaines personnalités comme Proudhon sont passées par ces écoles mutuelles. Le livre s'appelle « L'école mutuelle, une pédagogie trop efficace » de Anne Kérien. Il est paru en 2005 aux éditions Les Empêcheurs de tourner en rond. Pour clore cette émission, on a ajouté une rubrique « Coup de gueule ». Oui, parce que, comme le disait si bien Coluche, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais certains sont plus égaux que d'autres. Ainsi en est-il malheureusement du cadre éducatif en France et notamment à Marseille, puisque pendant que certains réfléchissent à juste titre au modèle pédagogique le plus approprié à leur enfant, d'autres se demandent si le plafond ne va pas tomber sur la tête du leur. Si leur fils, qui habite un quartier populaire de Marseille et qui veut devenir ingénieur, va réussir à trouver un stage ailleurs qu'au McDo. Si la pensée stigmatisante va épargner l'enfant qu'on a envoyé en CAP Carleur, parce que c'est de notoriété que c'est une vocation quand on s'appelle Mohamed, Angelo ou Johar. Les adultes d'aujourd'hui, en somme, à qui on demande pourquoi ils ne sont pas sereins et pacifiques. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à nos invités, à Sandra, à Jean-Baptiste à la technique. Je vous laisse avec le morceau « Touche pas à mon école » tiré de l'album « Pitocha au pays des mille collines » des Ogres de Barbac. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 8e numéro de Métamorphose.
Petite sœur, il est quelle heure? Je t'écoute.
Il est midi, c'est l'heure du casse-croûte. J'ai une envie irrésistible de manger des araignées, des puces, des poux bien épicées, une horde de scarabées avec du beurre, enfin bref, des horreurs.
Mais si continue à toucher à mon école, le président à la casserole.
Petite sœur, il est quelle heure? Dis-le-moi vite.
Il est midi, allume le feu sous la marmite. J'ai cuisiné un fricassé de bras cassés, doré à souhait, un tas de trucs dégoulinants, très délicats à digérer, des asticots, des ragluants, des gros gugus un peu cramés, grouillants, bouillants, enfin bref, dégoûtants.
Mais s'il continue à toucher à mon école, le président à la casserole.
J'ai le ventre qui m'appelle.
Il est midi, j'ai fait chauffer les gamelles. On va goûter un velouté de vieux ministres avinés, relevés à l'Elysée, et de quelques lois à la noix, un pot-au-feu de députés, un patron qui pue les pieds et le fromage, enfin bref, mon courage.
Mais s'il continue à toucher à mon école, le président à la casserole.
Retrouvez tous nos programmes sur radiogrenouille.com.